C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Extrait de Histoire pressée de Bernard Friot. Faire à repasser. Je rentrais de mon cours de trompette quand je l'ai rencontrée au feu rouge de la rue de l'Ange. Elle avait une mini-jupe très serrée, des bas noirs, des cheveux verts et roses. Elle avançait cas un cas sur des chaussures à talons hauts. Oh, tellement haut qu'elle a perdu équilibre et s'est étalée au milieu du passage protégé. Comme je suis galant, je me suis précipité pour l'aider à se relever. Elle m'a fait un grand sourire, elle m'a dit « Merci petit gars, t'es vraiment sympa. Pour te remercier, je vais faire quelque chose pour toi. Parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis une fée. Enfin, pas tout à fait, je n'ai pas encore mon diplôme. Mais je sais déjà plein de trucs. En quoi veux-tu que je te transforme ? En poireau ? Hein ? Quoi ? Je ne comprends rien à ce qu'elle me voulait. Ah non, poireau, ça ne te dit rien ? Dommage, c'est ce que je réussis le mieux. Et en taille-crayon, ça te plairait d'être transformé en taille-crayon ? Écoutez, je ne tiens pas tellement à être transformé. C'est vrai, quoi, je ne suis pas si mal que ça, le vieux bleu, cheveux blonds, petit nez, même que ma grand-mère m'appelle mon petit prince charmant. D'accord, d'accord, a dit la fée, pas de taille crayon. En sucette à la menthe alors ? Ou en poteau électrique ? En benne à ordures ? Non, vraiment ? J'ai bredouillé, merci beaucoup, c'est très très gentil à vous, mais... Si, j'y tiens, a-t-elle insisté, mais il faudrait que tu décides, tu sais, parce que je n'ai plus grand-chose à mon répertoire. Ah si, j'oubliais. Je peux aussi te transformer en fer à repasser. Oh, je suis sûr que ça va te plaire. Regarde. Je n'ai pas eu le temps de protester. Elle a sorti sa baguette magique télescopique, l'a agitée en marmonnant des mots bizarres et... Je me suis retrouvé coincé sur un rayonnage de supermarché avec une étiquette, un prix et un certificat de garantie. Et voilà, je suis maintenant un fer à repasser. Fer à vapeur, double programme avec thermostat réglable et si vous voulez tout savoir. Et j'attends. Comme les crapauds des contes de fées, j'attends qu'une belle princesse vienne m'embrasser et je redeviendrai comme avant un vrai prince charmant. Alors, mesdemoiselles, soyez gentilles. Quand vous voyez un fer à repasser, embrassez-le. Qui sait, c'est peut-être moi. Et même si vous n'êtes pas très, très jolie, essayez quand même. Je vous promets, je vous épouserai. Si maman le permet.
Le monstre poilu d'Henriette Bichonnier. Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était laid. Il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout, au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux yeux et ailleurs. Ce monstre-là rêvait de manger des gens. Tous les jours, il se postait sur le seuil de sa caverne et disait, avec des ricanements sinistres, « Le premier qui passe, je le mange. » Mais jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et bien trop sombre. Et comme le monstre ne pouvait pas courir à cause de ses petits pieds ridicules, il n'attrapait jamais personne. Pourtant, avec patience, il continuait à attendre et à dire « Le premier qui passe, je le mange. » Un jour, un roi chassait dans la forêt et il se perdut entre les arbres. Il s'approcha par mégarde de la caverne du monstre poilu. Deux longs bras surgirent d'un coin sombre pour attraper le roi. « Ah ! » s'écria la vilaine bête. « Enfin quelque chose de meilleur à manger que les souris !» Et le monstre ouvrit une large bouche. « Arrête, arrête !» s'écria le roi. « Je connais quelque chose de bien meilleur que moi à manger. »« De quoi ?» demanda le monstre. « Des enfants bien tendres, » dit le roi. « Ah ! » dit le monstre. Alors, il attacha une grande ficelle à la jambe du roi et dit qu'il voulait bien le laisser partir s'il pouvait lui ramener un enfant à manger. Le roi promit qu'il reviendrait avec le premier gamin qu'il rencontrerait. « Attention !» ajouta le monstre poilu. « Si tu essaies de me tromper, je tire sur la ficelle et je te ramène ici. Compris ?»« Compris, » dit le roi. Il monta sur son cheval et galopa jusqu'à l'orée de la forêt. Là, il s'arrêta, sortit une grande paire de ciseaux de sa sacoche et essaya de couper la ficelle qui le rattachait au monstre. Mais il fut bien surpris. La ficelle était impossible à couper. « Ha ha !» ricana le monstre au loin. « N'essaie pas de me tromper !» Désolé, le roi se remit en route. Il traversa bientôt un village, espérant y rencontrer un gamin. Mais il fut bien déçu. Dans les rues, il n'y avait personne. Tous les enfants étaient à l'école. Alors le roi continua à galoper avec sa ficelle toujours attachée au pied. En arrivant près de son château, il vit enfin une fillette qui courait devant lui, au milieu du chemin. « Ah !» se dit-il, « voilà tout à fait ce qu'il me faut !» Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit en s'approchant que la fillette en question était sa propre fille, la petite Lucille qui s'était échappée du château pour aller s'acheter des malabars. Furieux, le roi la gronda. « Je t'avais interdit de manger des malabars et je t'avais aussi interdit de sortir du château. Ah, si tu savais !» Et il raconta la promesse qu'il avait faite au monstre. À l'autre bout de la ficelle, dans sa caverne humide et grise, le monstre entendait tout grâce à son écouteur. « Ha 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 » ricanait-il. « Pas dans ton loupette, je veux cette petite fille tout de suite. Sinon... » Le roi se mit à pleurer et la petite Lucille dut le consoler. « Ne pleure pas, papa, » dit-elle. « Je veux bien aller chez le monstre me faire manger. » « Ah, malheureuse !» sanglota le père. Il fit monter la petite fille sur son cheval et retourna à la caverne d'où le monstre le guidait en tirant sur la ficelle. Arrivé là, il déposa sa fille en tremblant. Le monstre détacha la ficelle et ordonna au roi de partir tout de suite. Puis il se tourna vers la fillette qui attendait poliment, les mains derrière le dos. « Ha ha !» s'écria le monstre. « Je vais te manger, mon petit lapin !»«
Poil aux mains !» dit Lucille.
« Quoi ?» dit le monstre.
« Je dis poil aux mains, parce que vous avez des poils aux mains !» dit Lucille. Et c'était tout à fait exact. Le monstre avait bien des poils aux mains, vu qu'il avait des poils partout.
« Ça, par exemple, dit le monstre, petit effronté.
Poil au nez, dit Lucille.
Surpris, le monstre dut reconnaître qu'il avait aussi des poils au nez, puisqu'il était poilu partout. Mais comme il était en colère, il menaça la fillette. « Je vais t'apprendre, moi.
Poil au doigt, dit Lucille.
Tu vas le regretter.
Poil au pied.
C'est tout de même malheureux.
Poil aux yeux.
Attention, je compte. 1,
poil aux mains.
2,
poil aux yeux.
3, poil aux bras.
4,
poil aux pattes. » Le monstre, hors de lui, se roulait par terre de colère. C'était d'ailleurs très drôle à voir. Et maintenant, il hurlait. « Ce ne sont pas des manières de princesse.
Poil aux fesses.
Maintenant, c'est fini.
Poil au kiki.
» Le monstre enragé. La fureur le faisait gonfler, gonfler, gonfler. Il enfla tant et tant qu'à la fin, il éclata de colère, explosant en petits morceaux qui s'envolèrent dans tous les sens et devinrent des papillons multicolores et des fleurs parfumées. En dessous, sous la peau du vilain monstre poilu, apparut le petit garçon le plus mignon qu'on eût jamais vu. « Je suis le petit prince charmant, poil aux dents, déclara-t-il avec un beau sourire. Tu m'as délivré, poil au nez, d'un mauvais sort, poil au corps, qui me retenait prisonnier, poil aux pieds depuis des années, poil au nez. Merci, poil au kiki, tu me plais beaucoup, poil au cou. Veux-tu m'épouser, poil aux pieds? Nous serons heureux, poil aux yeux. » La petite fille trouva la proposition charmante. Elle accepta tout de suite et les deux enfants s'envolèrent sur le dos d'un papillon géant. À partir de ce jour, jamais plus, jamais plus, on entendit parler du monstre poilu. Poil final.
La belle histoire du prince de Mot-Tordu, de Pef. À n'en pas douter, le prince de Mot-Tordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique, au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleu, blanc, rouge qu'on pouvait voir de loin. Le prince de Mot-Tordu ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Et le soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins. Dans la grande salle à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons, Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. Menu du jour, boulet rôti, purée de petits bois, pâte fraîche à volonté, suisse de grenouille, et en dessert, braise du jardin, confiture de mur de la maison. Un jour, le père du prince de Mautordu, qui habitait le château voisin, dit à son fils « Mon fils, il est grand temps de te marier. »« Me marier ? Et pourquoi donc ?» répondit le prince. « Je suis très bien tout seul dans mon château. » Sa mère essaya de le convaincre. « Si tu venais à être salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe ?» Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. Le prince se montra sensible à ses arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva. « Quelle tuile !» ronchonna le prince. « Heureusement que j'ai pensé à emporter ma boue de secours. » Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l'air de cueillir des braises des bois. « Bonjour, dit le prince en s'approchant d'elle. Je suis le prince de Mautordu. Et moi, je suis la princesse des écoles et je suis institutrice dans une école publique gratuite et obligatoire, répondit l'autre. « Fort bien, dit le prince. Et que diriez-vous d'une promenade dans ce petit pois qu'on voit là-bas ? Un petit pois ? S'étonna la princesse. On ne se promène pas dans un petit pois. C'est un petit bois qu'on voit là-bas. Un petit bois ? Pas du tout, répondit le prince. Les petits bois, on les mange. J'en suis d'ailleurs friand et il m'arrive d'en manger tant que j'en tombe salade. J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit. À mon avis, vous souffrez de maux de tête, s'exclama la princesse des écoles, et je vais vous soigner dans mon école publique gratuite et obligatoire. Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'école de la princesse et on n'eut aucun mal à trouver une table libre pour le prince de Mautordu, le nouveau de la classe. Mais dès qu'il commença à répondre aux questions qu'on lui posait, le prince déclencha l'hilarité parmi ses nouveaux camarades. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Quant à son cahier, il était à chaque ligne plein de taches et de ratures. On eût dit un véritable torchon. Mais la princesse des écoles n'abandonna pas pour autant. Patiemment, chaque jour, elle essaya de lui apprendre à parler comme tout le monde. On ne dit pas « j'habite un papillon », mais « j'habite un pavillon ». Peu à peu, le prince de Mautordu, grâce aux efforts constants de son institutrice, commença à faire des progrès. Au bout de quelques semaines, il parvint à parler normalement. Mais ses camarades le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu'il ne tordait plus les mots. À la fin de l'année, cependant, il obtint le prix de camaraderie car, comme il était riche, il achetait chaque jour des kilos de bonbons qu'il distribuait sans compter. Lorsqu'il revint chez lui, après avoir passé une année en classe, le prince de Mautordu avait complètement oublié de se marier. Mais, quelques jours plus tard, il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire. « Cher Mautordu, à présent que vous ne souffrez plus de maux de tête, j'aimerais savoir si vous aimeriez bien vous marier avec moi. Signé, princesse des écoles. Postscriptum, vous avez oublié de me rendre votre livre de géographie. Merci. » Il s'empressa d'y répondre, le jour même. Chère princesse des écoles, j'ai fini de lire le livre, il est très bien et j'accepte de me marier avec vous et avec joie. Amitié. Signé, Mautordu. Et c'est ainsi que le prince de Mautordu épousa la princesse des écoles. Le mariage eut lieu à l'école même et tous les élèves furent invités. Un soir, la princesse dit à son mari « Je voudrais des enfants. Combien ?» demanda le prince qui était en train de passer l'aspirateur. « Beaucoup, répondit la princesse. Plein de petits glaçons et de petites billes. » Le prince la regarda avec étonnement puis éclata de rire. « Décidément, dit-il, vous êtes vraiment la femme qu'il me fallait, madame de Mautordu. » « Soit, nous aurons des enfants et en attendant qu'ils soient là, commençons dès maintenant à leur tricoter des bulles et des josettes pour l'hiver.
Vingt contes des pourquoi de Michel Piquemal et Régis Delpeuch. Pourquoi les serpents mangent-ils les grenouilles ? Ce jour-là, je serpentais au bord d'une mare. Soudain atterrit devant moi une jeune grenouille. Je la saluai poliment et continuai mon chemin. Pas longtemps, trois bonds et la revoilà devant moi. « Où vas-tu, ami serpent ?» Je ne suis pas bavard et je n'aime pas les questions. Aussi, je ne répondis pas et je repris ma route. « Hop, encore elle. Pourquoi changes-tu de peau ?»« Hop, toujours elle. Pourquoi n'as-tu pas de pattes ?»« Hop, de nouveau elle. Pourquoi as-tu une si grande langue ?»« Hop, elle, elle, elle. Pourquoi tes crocs sont-ils emplis de venin ?»« Pourquoi si, pourquoi ça ?» Trop, c'est trop. Cette grenouille finit par me casser la tête, me réchauffer le sang. Je la fixais de mes gros yeux et demandais « Grenouille, mon ami, pourquoi toutes ces questions ? Je suis bavarde et curieuse. J'aime bien savoir qui sont les gens que je rencontre. « Eh bien, je vais te faire voir qui je suis, » dis-je en ouvrant la bouche à m'en décrocher les mâchoires. Et j'avalais la grenouille bavarde et curieuse. Je me rendis compte alors qu'elle avait fort bon goût. Et c'est depuis ce jour que nous autres serpents, nous nous régalons des grenouilles bavardes et curieuses qui croisent notre route. Pourquoi le de mer est-elle salée ? Des côtes de la Chine aux rives de la Norvège et de tous les autres pays scandinaves court une légende. Une légende qui explique pourquoi l'eau de la mer est salée. En ce temps-là, l'eau de la mer, comme celle des rivières, des lacs et des nuages, était douce comme de la soie. Mais un jour, deux frères héritèrent de la fortune de leur père. Enfin, l'aîné hérita, car étant le plus fort, il chassa son frère cadet de la maison paternelle sans lui donner une seule pièce d'or. Le cadet s'installa avec sa femme dans une petite maison au bord de la mer, mais bien vite la misère les rattrapa. Un matin, alors qu'il n'avait même plus un grain de riz à se mettre sous la dent, le cadet alla chez son frère et le supplia. « Mon frère, toi qui es riche et bon, prête-moi un peu de blé et de riz, je te le rendrai dès que j'aurai vendu ma maison. » Mais l'aîné était encore plus avare que riche et il refusa de prêter quoi que ce soit à son cadet. Dépité et honteux, ce dernier regagna le port, emprunta le bateau de son voisin et partit à la pêche. La mère serait sûrement plus généreuse que son frère. Quand il remonta les filets, il n'y avait pas le moindre poisson, mais un moulin. Le pauvre homme décida de ramener cet objet insolite à la maison. Sa femme, le voyant rentrer sans riz ni poisson, se mit en colère. « Mais que veux-tu que je fasse de ce moulin ? Lui faire moudre de l'or ?» Elle n'avait pas fini de prononcer ces paroles que le petit moulin se mit à moudre et déversa sur la table de la poussière d'or. Incroyable ! Le moulin moulait tout ce qu'on lui demandait. De l'or, du blé, du riz, du poivre, des diamants. Il suffisait de le retourner pour qu'il s'arrête de moudre. Bientôt, l'aîné apprit que son frère allait être plus riche que lui. C'était insupportable. Il alla le voir et lui dit « Mon frère bien-aimé, je vais partir sur la mer avec ma femme. Je te donne la maison et la ferme. » « Mais pourquoi cela ? » demanda le cadet surpris par la soudaine générosité de son aîné. « Je ne veux pas la vendre à quelqu'un qui n'est pas de la famille. En échange, je te demande juste de m'offrir un petit cadeau. » « Tu es trop bon, » répondit le cadet. « J'accepte avec joie car c'est la maison de notre père. Tiens, prends ce que tu veux. » Sans hésiter, l'aîné prit le moulin magique. Pourquoi ? Car les deux femmes continuaient à se voir en cachette de leur mari et elles étaient très bavardes. Le lendemain, l'aîné embarqua sur son bateau avec pour seul bagage le petit moulin. Il s'éloigna de la côte et décida de manger un petit peu avant de demander au moulin de moudre tout ce dont il rêvait depuis la veille. Il attrapa la salade que lui avait préparée sa femme, en avala une bouchée et dit à haute voix « Quelle idiote ! Elle a oublié le sel. » Aussitôt, le moulin se mit à moudre du sel. Bientôt, le pont fut blanc comme neige. L'aîné, ne sachant pas comment arrêter le moulin et ne voulant pas le jeter à l'eau, eut beau crier, hurler, vociférer, le sel continuait à envahir le bateau et bientôt passait par-dessus bord. Et d'un coup, d'un seul, le bateau coula, emportant avec lui le méchant avare et le moulin magique qui continue depuis ce jour à moudre du sel au fond de la mer.
Histoire pressée de Bernard Friot. Télévision. Moi, j'adore regarder la télévision. Je connais les programmes par cœur et je sais tout ce qui se passe dans le poste. Je me suis même amusé à le démonter, à le remonter plusieurs fois et j'ai rajouté 2 ou 3 boutons. Mes parents ne sont pas d'accord. Ils disent que je perds mon temps et que je ferais mieux d'apprendre mes leçons. L'autre soir, je regardais un film policier passionnant quand mon père s'est mis à hurler comme un sauvage. « Éteins la télévision ! Ça fait 4 heures que tu es planté là-devant comme un poteau électrique dans un champ de navets. Tu vas bientôt avoir le cerveau aussi mou que du chocolat fondu. File dans ta chambre et va lire un peu ton livre de lecture. » Il y a longtemps que j'ai compris qu'il vaut mieux ne pas discuter avec mon père quand il est dans cet état-là. Je suis donc allé dans ma chambre et j'ai pris mon livre de lecture. Je me suis endormi avant d'avoir terminé la 2e ligne. J'ai été réveillé par des cris et des hurlements. En écoutant bien, j'ai reconnu les voix de toute la famille. Les barrissements de mon père, les mugissements de ma mère, les piaillements de ma grand-mère et les hennissements de ma sœur. Je suis allé voir ce qui se passait. Et j'ai vu un python essayer d'étouffer ma grand-mère. Un crocodile avait attaqué une cuisse de mon père. 2 jaguars se disputaient ma mère et un requin demandait à ma sœur d'enlever ses chaussures pour qu'il puisse la croquer proprement. Et des centaines de fourmis rouges sortaient du poste de télévision et couraient comme des folles dans le salon. Je me suis précipité pour éteindre la télévision et tout est rentré dans l'ordre. Sauf que ma sœur a continué à sangloter pendant 10 minutes. Je lui ai donné un mouchoir et j'ai dit à mon père ben « Voilà ce qui se passe quand on ne sait pas se servir d'une télévision. Mais on voulait juste mettre un documentaire sur les animaux », a-t-il répondu. Je lui ai dit de me laisser faire et j'ai remis mon film policier. Ils ont tous râlé en disant que c'était débile, mais ils ont regardé jusqu'au bout avec moi. Et il a fallu que je me fâche pour qu'ils aillent au lit. Ils voulaient encore regarder les informations télévisées. Il faudra que je bricole à nouveau le poste de télévision, sinon ça va mal se terminer.
Clodomir Mousqueton de Christine Noman Villema. Clodomir Mousqueton n'aimait pas ses voisins, ni leurs enfants. Clodomir n'aimait rien, ni personne, sauf son jardin, son fauteuil à oreilles et sa télévision. Un matin, Clodomir trouva un paquet dans sa boîte aux lettres. Il l'ouvrit. C'était un livre. Clodomir n'avait que faire d'un livre. Il songea à le mettre directement à la poubelle, mais il n'avait rien pour caler la porte de la cuisine qui claquait sans arrêt. Ensuite, dans la chaleur de midi, il le trouva assez commode. Dans l'après-midi, le bouquin lui fut encore bien utile et dès le soir, l'objet était devenu indispensable. Le lendemain matin, dring ! On sonna à la porte. « Oh, sacré boudiou de bouloche en poil ! Qui ose me déranger ? Alors que mon feuilleton va commencer ? Un enfant ? Bonjour, monsieur. Voilà, je me présente, je m'appelle Marcel. On ne vous aurait pas livré un paquet, un livre ? Et alors ? Bougonna Clodomir. Parce que, voilà, c'est une erreur. J'habite à côté et je me demande si le facteur ne s'est pas trompé. J'attendais mon tome 3, des aventures dangereuses et fort amusantes, d'Alfredine, parfaite et un livre, oui, je l'ai, mais je le garde. J'en ai besoin. Il repasse ma chemise, allez, file. Mais, protesta l'enfant, mes aventures d'Alfredine, voilà. La porte était déjà claquée. Clodomir se rencogna dans son fauteuil et savoura sa tranquillité tandis que le générique de son feuilleton retentissait. Mais le vieux fut vite dérangé. Le garçonnet avait collé son nez à la vitre et lorgnait sur son bouquin comme si sa vie en dépendait. Furieux, Clodomir tira les rideaux d'un geste sec, puis se rassit devant sa télé. Pendant quelques instants, il put suivre son épisode en toute sérénité, mais il finit par entendre un drôle de bruit au-dessus de sa tête. Quelqu'un marchait sur son toit. Le vieillard sortit en trombe. « Oh, Crévidou, descends de là, garnement !»« Jamais sans mon livre !» clama le garçon. Tout en maugréant, Clodomir alla chercher son échelle et y grimpa. « Viens ici, patatouille » hurla-t-il. « Mon bouquin d'abord !» couina le garçon. Le problème, c'est que Clodomir, avec ses vieux chaussons, n'était pas vraiment équipé pour une expédition sur le toit. « Je te préviens !» Clodomir ne put terminer. Il se mit à glisser lentement sur la toiture. Le petit se mit à plat ventre et attrapa la main du vieux. « Monsieur, vous allez me le rendre, hein ?»« Jamais !» s'écria le grincheux, juste avant de lâcher prise. Heureusement, sa chute fut amortie par le tas de fumier qu'il utilisait pour chouchouter son jardinier. En jurant, le vieux rentra chez lui et s'apprêtait à aller se faire couler un bain lorsque il aperçut les pieds du gamin qui gigotait dans la cheminée. « À secours, je suis coincé !»« Oh, vinguette !» ronchonna Clodomir en se précipitant. Tandis qu'il tirait le gamin par les baskets, le papy bougonnait. « C'est-il pas possible de se mettre dans des états pareils ? Mais qu'est-ce qu'il a donc de si spécial, ce bouquin ?»« Avec ce livre, expliqua le petit d'une voix étouffée, moi je peux m'aérer la tête. Bah, tiens, tu m'en fais une bonne à cette heure-ci de caboche aérée. Moi aussi j'ai besoin d'air. Et puis, je peux voyager avec ce livre. Aller très loin, continua l'enfant. Des voyages sur le toit, oui. En plus, elles me font rire, les aventures d'Alfredine. Ah, c'est pas faux ce que tu dis, mon petit. Il me fait rigoler aussi, ton bouquin. Alors, je peux l'avoir, mon tome 3 ? Osa demander Marcel. Clodomir se remit aussi sec en colère. Non, mais je rêve ! Tu cochonnes toute ma maison et tu voudrais que je te récompense ? Je veux mon livre, hurla Marcel. Tu l'auras pas, un point c'est tout. Et pour qu'on n'en parle plus, je vais te lire la dernière phrase. « Non !» supplia le petit, « pas la dernière phrase !»« Si ! Alors, je lis !»« Si on mangeait Alfredine !»« Ah non !» cria Marcel. « Non ! Alfredine a perdu ! C'est le méchant qui a gagné ! Il a fait dévorer Alfredine par la tribu cannibale des crocou-crocou !» Le petit gars se mit à pleurer à gros sanglots, inconsolable. Décidément, pour le feuilleton de Clodomir, c'était râpé. Bon, bon, arrête de chouiner, fit le vieux, quelque peu embarrassé car il n'avait pas vu quelqu'un pleurer ailleurs qu'à la télé depuis 1957. Ah, elle est peut-être pas quick, ton Alfredine. Si, elle est morte. Bon, attends, on va vérifier. Allez, lis-moi ce qui se passe juste avant. Le garçon lut fort bien en mettant le ton. Le cruel Tue-la-mort jura à Alfredine qu'il se vengerait un jour. Et les terribles crocrou-cocou l'emmenèrent au fin fond de la forêt, ficelé comme un gigot. Puis le fidèle valet d'Alfredine déboucha une bouteille de champagne et s'exclama « Si on mangeait, Alfredine !» Marcel battit des mains en constatant le triomphe de son héroïne. « Tu sais quoi, mon garçon ?» fit Clodomir. « Commence donc par le début !» Quand Marcel arriva à la ligne 76, le vieux s'installa confortablement dans son fauteuil à oreilles. À la page 45, il éteignit la télévision. Le gamin lut 3 chapitres avant de constater qu'il se faisait tard. « Ta punition n'est pas finie !» lança Clodomir. « Reviens demain me lire 2 ou 3 chapitres. »«
Vous ne voulez pas plutôt me rendre mon livre ?»«
Ah non, j'en ai besoin pour écraser les limaces. Ha, 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 ha. »
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron ». une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département, Radio des Boutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.